Bonjour. Le 6 février sera la journée internationale Tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines déclarées par l'UNICEF. Ces mutilations sont des violences insupportables envers les femmes. À cette occasion, les associations aixoises engagées pour le droit des femmes ont organisé une conférence débat suivie d'un goûter le samedi 1er février de 14h30 à 17h30 au centre social du Jazz de Bouffant Nord, ex-centre social des Amandiers, pour débattre de ce sujet. Parmi les associations, on trouve la CIMAD, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, Gynécologie sans frontières, avec le soutien également de l'ATMF, qui est l'Association des travailleurs maghrébins de France, et de la Fédération des GAMS, qui sont eux aussi invités. Je m'appelle Marianne, je suis membre d'Amnesty International et je vous présente Sabine de la CIMAD, à qui je vais poser quelques questions et qui va essayer d'y répondre.
Bonjour Marianne et bonjour à tous et à toutes.
Sabine, peux-tu nous donner une idée du nombre de femmes dans le monde qui ont subi ces mutilations et quelles régions du monde sont les plus concernées?
Oui, bien sûr Marianne. Alors le nombre exact est une estimation, puisque en raison de l'illégalité de la pratique, on ne peut pas avoir des chiffres précis. Mais cette estimation s'élève à 200 millions de filles et de femmes originaires de 31 pays, sur trois zones essentiellement du globe, donc en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, estime que chaque année, plus de 4 millions de filles courent le risque de subir des mutilations sexuelles. À l'horizon 2030, près d'une fille sur trois naîtra dans l'un des 31 pays où ces mutilations sont pratiquées. Ainsi, 68 millions risquent d'en être victimes. Et concrètement, par exemple, une femme sur trois est concernée en Afrique.
Entendu. Peux-tu nous dire maintenant plus en détail ce dont il s'agit lorsque l'on parle de mutilation sexuelle ou d'excision?
Oui, alors en effet, il existe trois types principalement de pratiques. Donc une excision à minima, cette pratique consiste à faire saigner le gland du clitoris en l'incisant, en coupant sa pointe, ou encore par l'ablation du capuchon clitoridien. Cette pratique se retrouve notamment en Asie, Indonésie, Malaisie, Thaïlande. Ensuite, il y a l'excision ou clitoridectomie. Cette pratique consiste à l'ablation totale de la partie visible du clitoris et de son prépuce, avec ablation partielle ou totale des petites lèvres. Et enfin, l'infibulation. Cette pratique consiste en l'ablation du gland, du clitoris, des petites lèvres et aussi une partie des grandes lèvres qui sont ensuite rapprochées et cousues ensemble. Le sexe des femmes est alors totalement fermé, à l'exception d'un minuscule orifice ménagé dans le but de permettre le passage de l'urine et du sang menstruel.
Mon Dieu, mais quelles sont les conséquences et séquelles physiques et psychologiques pour ces femmes?
Alors les conséquences sont nombreuses et variées. Il y a des conséquences immédiates. La douleur extrême déjà. Ensuite, le saignement qui souvent finit en hémorragie et parfois mortelle. Les brûlures en urinant, le réflexe de rétention d'urine, des problèmes d'infection et de cicatrisation. Puis les conséquences ultérieures, des infections urinaires très fréquentes, des infections génitales régulières qui peuvent conduire à la stérilité, des règles douloureuses et plus particulièrement dans le cas de l'infibulation, des troubles sexuels, l'altération de la sensibilité spécifique de la vulve pouvant aller jusqu'à la perte de désir, une vie sexuelle rendue difficile, rendant la pénétration difficile et ou douloureuse, douleur causée par la zone cicatricielle. Des complications psychologiques, dépression, angoisse, frigidité, sentiment d'être différente jusqu'au suicide. Et plus tard, dans la vie adulte, lors de grossesse, évidemment des complications obstétricales. Le premier accouchement peut être rendu difficile, souvent dangereux, pour la vie de la mère et de l'enfant. Il y a des risques de souffrance fœtale, de mort prématurée du nourrisson, des risques de déchirures multiples et importantes de la vulve et du périnée, pouvant donner lieu à des hémorragies. Et pour les femmes infibulées, une nécessité d'être rouverte puis recousue aux dimensions du mari.
Peut-on dire que dans les pays occidentaux, les femmes ne sont pas concernées par ces mutilations?
Alors, pas vraiment. Les pays occidentaux accueillent des femmes issues de l'immigration qui sont elles-mêmes victimes ou qui peuvent être exposées au risque. Par exemple, aux États-Unis, on compte 500 000 femmes mutilées ou exposées au risque. En Europe, on a le même chiffre, 500 000 femmes mutilées ou exposées au risque. Je précise quand même qu'au 19e siècle, jusqu'au début du XXe siècle, dans le cadre de la santé mentale, certains médecins ont pratiqué les mutilations sexuelles féminines pour traiter, entre guillemets, ce qui était défini comme hystérie des femmes. Mais enfin, pour parler de la France, une chercheuse en sociologie estime le nombre de 125 000 femmes sur le territoire victimes ou exposées au risque, mais il y a des variations en fonction des territoires. Si la moyenne nationale est de 0,5% vivant en France, elle peut atteindre 7,1% en Seine-Saint-Denis, par exemple. Et les fillettes et les jeunes femmes qui sont à risque, elles le sont lors d'un voyage dans le pays d'origine des parents. C'est une pratique assez courante, mais également sur le territoire français, ce qui est plus surprenant, car bien que illégale, cette pratique perdure en France, dans certaines communautés. Pour preuve, j'en profite pour vous citer un roman publié en 2022, écrit par Alimata Fofana, une jeune femme française dont les parents sont sénégalais, qui a été excisée à l'âge de 5 ans. Dans le roman À l'ombre de la cité Rimbaud, qui est un roman fictif, elle s'inspire de faits réels et elle raconte le voyage, l'excision, mais aussi les pratiques qui perdurent en France. Alors Marianne, dis-moi, toi qui es représentante d'Amnesty International, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les mutilations sexuelles sont-elles encore pratiquées alors qu'elles sont interdites par la loi dans plusieurs pays?
On s'est rendu compte en fait que dans certaines sociétés, l'excision est considérée comme un rite de passage. Dans d'autres, elle constitue un moyen d'empêcher la sexualité des filles ou de garantir leur chasteté. Ni l'islam ni le christianisme n'approuvent les mutilations génitales féminines, pourtant les textes religieux sont souvent brandis pour les justifier. Là où les mutilations génitales féminines sont les plus répandues, la population peut estimer qu'il s'agit d'une condition pour se marier ou hériter. C'est pourquoi il est difficile pour les parents de renoncer à cette pratique. Les familles qui les refusent sont ostracisées et leurs filles risquent de ne pas pouvoir se marier.
Enfin, espérons que tout ça évolue et ça évolue quand même progressivement. Et en quoi les mutilations violent-elles les droits humains?
Elles violent les droits humains. Un des premiers droits qu'elles violent, c'est les principes d'égalité et de non-discrimination liés au genre, puisqu'elles touchent bien évidemment les filles, les femmes en premier lieu. Et ça, c'est un principe d'égalité qui est décrit dans l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, elles violent le droit à une vie exempte de torture et de mauvais traitements, comme cela est annoncé dans l'article 3 et 5 de la DUDH. Enfin, elles violent le droit à un meilleur état de santé possible, ainsi que le droit à l'intégrité physique, comme l'énonce la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pour finir, enfin, dans les cas les plus graves, elles violent même le droit à la vie, inscrit à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dis-moi, Sabine, ces mutilations sont-elles punies par la loi et comment?
Alors, si on précise le cadre français, en effet, oui, puisqu'elles sont juridiquement qualifiées de torture par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et l'article 7 du Code civil français stipule que le corps humain est protégé dès la naissance, marquant le début de la vie. Ainsi, tout auteur de mutilation est jugé en France par une cour d'assises et risque une peine de réclusion de 10 à 15 ans et 150 000 euros d'amende. Ensuite, concernant le droit, il y a aussi quand même une protection. Donc, toute jeune fille mineure ou femme, si elle s'estime menacée lorsqu'il y a une menace, on peut porter plainte au procureur. Elle peut se faire aider par les services de protection maternelle et infantile, par l'aide sociale en général. Tout adulte qui a identifié une menace pour un enfant a l'obligation de signaler ce danger. Parce que dans le cas contraire, cet adulte peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Et enfin, Donc ça, c'est sur le territoire français, mais toute personne, toute femme ou maman d'une fillette qui serait menacée dans un pays autre, un pays étranger, peut demander une demande de protection internationale auprès de l'OFPRA en France et donc faire une demande d'asile. Alors, Marianne, est-ce que tu peux nous dire comment on peut lutter contre ces mutilations pour les supprimer?
Alors écoute, de grands organismes internationaux comme l'UNICEF mettent en place des campagnes de sensibilisation et de prévention qui permettent d'obtenir certains résultats dans certains pays, dans d'autres non, parce qu'elles sont confrontées à une forte résistance sur le terrain. Toutefois, il existe aussi de nombreuses associations locales qui ne cessent d'agir, mais avec des moyens parfois insuffisants face à l'ampleur de la tâche. Et Sabine, dis-moi, existe-t-il des lieux ou des structures qui viennent en aide à ces femmes?
Alors oui, en France, toute femme peut engager un parcours de reconstruction. Il y a la Maison des femmes à Saint-Denis et la Maison des femmes à Marseille, donc deux structures qui sont très bien équipées, qui ont des équipes spécialisées avec un accueil psychologique, une prise en charge médicale et une prise en charge chirurgicale pour ces femmes, un véritable accompagnement, et tout en sachant que ces démarches sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc oui, il y a espoir et ces femmes ont un avenir autre si elles le veulent.
Bon, ben ça c'est encourageant. Ça permet d'avoir un peu d'espoir pour
Oui, c'est
lutter.
ça. Et nous sommes là pour ça.
Exactement, exactement. Je crois que tu as une devinette à nous poser.
Oui, alors pour terminer cette petite émission, j'ai trouvé une petite devinette. Devinez qui suis-je? Pendant des générations, j'ai dû me cacher et dans de nombreux pays, on me coupe encore la tête. Il y a 20 ans à peu près, on a compris que je ne suis pas qu'une tête. Tu connais mon gland rose parce que c'est ma seule partie visible. À présent, je te présente mon corps. Il mesure entre 8 et 12 cm. Je me consacre entièrement au plaisir. Je suis le champion de la sensibilité humaine, avec mes 8000 terminaisons nerveuses. Je mérite d'être connue, aimée et respectée. Marianne, as-tu deviné qui suis-je?
Je crois que oui, hein. C'est le.
Le clitoris,
Eh, c'est
évidemment.
ça, voilà. Bien, ben, nous vous invitons à venir débattre avec nous, participer au goûter, échanger sur cette question-là, qui est une question assez grave. Mais justement, en parler, poser des questions, ça permet un petit peu de et mieux connaître le problème et puis d'expliquer, de comprendre ce qui se passe et comment trouver des moyens pour lutter contre ce fléau.
Oui, il est important d'en parler et que ça ne reste pas tabou. Donc nous vous attendons nombreuses et nombreux samedi 1er février au centre social Nord-Aix-les Amandiers à partir de 14h30. Mane ada tulo yo wa malum nar kon pa kay clan set in ror mu chel chi ken chili daf ñu war te kila ada par na wa bilore ma wa xuma ci tara hef ci yem da fo wara end of a wara che I came complete, so let me live my life to the fullest. I need no chains to bound my sensations. I deserve to have it all. Cut no more. Yeah.
GM ends with me. Nenyu fipu juk hehli, lun songa dan, mbolo moy dole, ada chosan waru talore, bull talk, so gise kukwe def nanko bole, yermanda wai buko ton daki halela, yo buko yo bundak fumu imbuje moy suma yegon, bumage beranye, nelinko defon du yon, dinala mere trauma muna tah mutagok sa go.